La crise environnementale n'a pas de frontières. Elle touche tous les territoires, y compris les plus proches de nous, et ses effets se font sentir dans notre quotidien. Mais ce sont les enfants qui figurent parmi les premières victimes de cette urgence écologique. Pollution de l'air, dérèglement climatique, autant de menaces qui compromettent leur santé, leur sécurité et même leur droit à grandir dans de bonnes conditions. Dans un rapport alarmant, le défenseur des droits rappelle que certaines atteintes environnementales sont aussi des atteintes aux droits humains, en particulier ceux des plus jeunes. Elle appelle l'État à agir, à adapter ses politiques et à garantir à chaque enfant un environnement sain, aujourd'hui et pour les générations futures. Car protéger l'environnement, c'est aussi et surtout protéger l'enfance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Anime tes droits. Comme vous l'aurez deviné, nous aborderons dans cette émission la thématique des droits de l'enfant et tout particulièrement le dernier rapport du défenseur des droits sur le droit des enfants à un environnement sain. Ce dernier rapport traite de trois sujets, la protection des enfants face aux dégradations environnementales, garantir l'accès des enfants aux ressources vitales et à un cadre de vie respectueux de leur santé et de leur bien-être, l'accompagnement des enfants dans la défense de leur droit à un environnement sain. Ces sujets sont mis en lumière dans un contexte actuel où l'urgence d'agir est impérative, comme le souligne le sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une formation BPJEPS, et pour échanger et mieux comprendre ce sujet et ses enjeux, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Ludovic, Stéphanie, Valentin, Maëva et Maxime, qui sont des professionnels de l'enfance en formation. Ils viendront nous partager leurs connaissances et exprimer leur avis sur cette thématique, pour essayer de mieux comprendre l'impact sur les enfants et comment sur nos territoires les professionnels agissent pour favoriser le respect de ce droit fondamental. Au programme, différentes rubriques. La première s'appelle « Quel temps fait-il sur la planète ?» et sera présentée par Stéphanie, qui sera tout particulièrement orientée vers une des préconisations du rapport du défenseur des droits. Bonjour Stéphanie, peux-tu nous expliquer en quelques mots la rubrique que tu vas nous présenter ?
Bonjour Valentin. Effectivement, je vais faire écho à une des préconisations du rapport des défenseurs des droits de l'enfant qui est augmenter le ratio par habitant d'espaces verts au sein des villes sur la base d'un référentiel national et encourager la végétalisation des cours de récréation des établissements scolaires et de tous les lieux qui accueillent des enfants.
Merci beaucoup Stéphanie. Suite à cela, Maëva nous présentera son billet d'humeur sur l'actualité au sein des structures. Bonjour Maëva, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Valentin, pour ma part, je suis venue vous parler de ma réalité du terrain.
Merci beaucoup Maëva. Et pour conclure, parce que le droit des enfants est un sujet à part entière de cette thématique et que les droits ne se limitent pas à celui d'un environnement sain, Ludovic et Maxime feront un point sur le rapport de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a d'ailleurs fêté ses 35 ans l'an dernier. Maxime, Ludovic, je vous laisse la parole.
Bonjour Valentin. En effet, avec Ludovic, nous allons vous parler de la notion de droit de l'enfant, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'un zoom sur l'un des quatre grands principes de cette convention, le respect de l'opinion de l'enfant.
Merci beaucoup. Nous sommes toujours sur l'animation Anime tes droits, qui traitera aujourd'hui du droit des enfants et tout particulièrement du droit des enfants à grandir dans un environnement sain. Chers invités, encore une fois, merci pour votre présence. Stéphanie, je te laisse la parole, on y va.
Bienvenue dans « Quel temps fait-il sur ma planète ?» Mon dossier du jour sera sur la revégétalisation urbaine pour un environnement plus sain pour nos enfants. En effet, face aux défis du réchauffement climatique, les villes françaises multiplient les initiatives pour amener la nature en ville. Aujourd'hui, nous mettons en lumière ce phénomène national avec un zoom sur un exemple inspirant, la ville d'Angoulême. La revégétalisation urbaine est aujourd'hui une priorité inscrite dans plusieurs politiques publiques. L'État français a lancé divers programmes pour favoriser les espaces verts en ville.
Stéphanie, pourrais-tu nous éclairer nos auditeurs sur ce qu'est la revégétalisation ?
La revégétalisation urbaine, c'est la plantation d'arbres, la création de jardins partagés, la transformation de friches et l'installation de toitures végétales.
Et en quoi est-il important pour toi de revégétaliser les villes ? Et est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner ?
Alors, cela permet de lutter contre les îlots de chaleur, d'avoir une meilleure qualité de l'air, d'enrichir la biodiversité et bien sûr, améliorer le bien-être des habitants. Des plans ont déjà été mis en route depuis quelques années, comme le plan biodiversité, le plan relance France ou le projet quartier fertile, et ainsi que le plan oasis cour d'école pour végétaliser contre les îlots de chaleur. L'exemple le plus parlant est la ville de Paris. comme le confirme un article dans la Tribune publié le 24/04/2024 qui fait ce constat. L'air respiré par les Franciliens est de moins en moins pollué. C'est ce qui ressort du bilan de l'année 2023 réalisé par Air Paris, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région. Ainsi, les concentrations en particules fines et celles en dioxyde d'azote ont chacune baissé en moyenne de 40% entre 2013 et 2023, ce qui n'est pas négligeable.
Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons faire maintenant un zoom plus particulier sur la ville d'Angoulême, qui s'inscrit aussi dans ce projet de revégétalisation de la ville et de ses écoles.
En effet, la stratégie municipale par le plan climat Agenda 21 est de revégétaliser des places, comme la place Mulhac ou encore le Champ de Mars, en créant des corridors verts, des jardins partagés, des trames vertes sur les boulevards.
Effectivement, nous allons écouter des témoignages recueillis ce matin, place du Champ de Mars, actuellement en pleine transformation, comme nous pourrons l'entendre au bruit des disqueuses.
Mon premier témoin est Monique, qui vit depuis 40 ans à Angoulême.
Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué justement des changements en matière de végétalisation de la ville au
depuis
fil des
40
années
ans, oui. Oui, d'accord. Et oui.
Vous trouvez ces aménagements plutôt esthétiques, utiles pour votre confort en été, peu efficaces ou qui peuvent gêner la circulation selon où ils sont implantés?
Alors, je ne pense pas que ça gêne la circulation parce qu'en ville, il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Esthétique, moi, j'adore la nature verte, les fleurs, les plantes, donc je trouve que c'est joli. Puis je pense que ça plaît au regard.
Ces végétalisations sont bien accueillies par les habitants. Certains y ont même participé, comme Lucie et Timothée, que nous allons écouter.
Vous avez déjà participé à ce genre d'initiative?
Oui. Non.
D'accord, dans quel cadre?
Dans mon village, souvent, ils aiment bien planter des fleurs, tout ça, tout ça. Donc souvent, je suis bénévole pour les aider.
D'accord. Et pour vous, ça a plutôt un intérêt esthétique? Ça peut influencer sur la température des villes l'été ou des choses comme ça?
Oui.
Tout.
Oui.
Esthétique, parce que ça ramène, enfin, c'est plus joli que du béton et puis ça rafraîchit quand même vachement les villes.
On peut quand même constater des inégalités sur le Grand Angoulême, comme en témoignent trois jeunes femmes à la terrasse d'un café.
Les écoles de vos enfants, est-ce que sont végétalisées ou plutôt bétonnées?
Bétonnées. Bétonnées. Ils sont dans la même école.
D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des projets dans vos communes ou dans les écoles pour l'instant pour...
Dans notre école, il n'y a pas de projet en cours, on n'a pas été informé pour végétaliser.
D'accord. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat.
Dis-moi Stéphanie, ces jeunes femmes évoquent aussi les écoles. Peux-tu nous parler du programme Oasis Cours?
Le programme Oasis Cours vise à transformer les cours d'école en îlots de fraîcheur. Angoulême et des communes du Grand Angoulême se sont déjà inscrites dans ce programme, comme la ville de Ruelle-sur-Touvre. Nous accueillons dans notre studio Valentin qui est animateur et qui a vécu cette transition. Bonjour Valentin.
Bonjour Stéphanie, bonjour l'équipe.
Valentin, peux-tu nous expliquer quels aménagements ont été réalisés dans la cour de l'école?
Oui, je peux tout à fait t'expliquer les différents aménagements. Donc, il faut savoir qu'à la base, il y avait déjà donc, cette petite cour d'école de centre-ville, deux, trois arbres qui permettaient de se cacher et de s'abriter du soleil. Donc, depuis en fait, 2023, ils ont aménagé une partie de la cour avec un espace copeau où les enfants peuvent déambuler et s'asseoir tranquillement. Ils ont ensuite changé le sol, donc avec un sol synthétique. Et sur quelques espaces de la cour, ils ont rajouté des bacs fleuris.
Valentin, peux-tu me dire quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel sol?
Alors, les avantages, donc là, si on parle du tout dernier sol qui a été mis en place, donc déjà, il n'y a plus de poussière. Les racines des arbres commençaient à soulever le goudron. Donc, en fait, il n'y a plus ce problème-là depuis le nouveau sol. Et l'isolation aussi. Donc, en fait, les enfants peuvent s'asseoir tout en ayant un côté plus frais.
Penses-tu que le projet Oasis Cours soit assez visible?
Il l'est. Quand on passe devant l'école, on remarque qu'il y a eu un aménagement de fait, mais il a peut-être été fait sans prendre en compte l'avis d'enfants et des enseignants présents dans l'école.
Merci Valentin. On se rend compte qu'entre le projet sur le papier et la réalité sur le terrain, il y a encore du chemin à faire. En conclusion, nous pouvons retenir de tout cela que le bien-être de la population et surtout celui des enfants commence à être au centre des préoccupations des consciences collectives. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du ministère de la Transition écologique, biodiversité.gouv.fr. Merci de votre écoute.
Merci Stéphanie pour ce dossier. Nous allons nous quitter sur une citation de Yann Arthus-Bertrand. Photographe et militant écologiste, revégétaliser, c'est réparer le lien entre l'homme et la nature dans l'espace urbain. Vous êtes toujours sur l'émission Anime tes droits. Nous discutons autour des droits de l'enfant et du droit à l'environnement sain pour eux. On va maintenant discuter avec Maëva. On entend souvent que tout passe par l'éducation, mais entre les idées et la réalité, il y a un monde. Maëva, toi, tu es animatrice depuis 15 ans, très investie dans des projets liés à la transmission. Pourquoi ce rôle de coéducation est-il si central dans la transition écologique ?
Alors tout simplement parce qu'on a un vrai rôle à jouer sur l'éducation des enfants. On forme les citoyens de demain. On a un vrai rôle d'éveil à la conscience qui me touche plus particulièrement. On a un devoir de transmission. Si les acteurs éducatifs ne parlent pas de la nature, ni du climat et de la consommation responsable, on peut se poser la question de qui va vraiment le faire. Je pense que c'est à nous de leur donner les clés.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet que tu as mis en place ?
Oui, bien sûr. Sur ma structure, par exemple, on a créé un jardin pédagogique. Les enfants plantent, observent, compostent. Ils apprennent avec patience la biodiversité. Mais surtout, ils en parlent à la maison. Ça fait boule de neige et c'est aussi ça l'effet recherché.
Mais j'imagine que tout n'est pas si simple. Quels sont les principaux freins que tu rencontres ?
Je pense que les freins sont les mêmes partout. Certains animateurs ne se sentent pas assez formés sur les enjeux environnementaux, ce qui entraîne une réticence de leur part au projet. Le manque de temps est bien entendu le point qui fâche, les moyens financiers. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les enseignants aussi qui se rejoignent sur le fait qu'avec leur programme à suivre, le côté environnemental est plutôt un bonus et pas une priorité.
Et est-ce que tu te sens soutenue par l'institution ?
Pour être honnête, pas vraiment. Il y a des discours, des grands mots affichés sur les projets éducatifs, mais sur le terrain, on se sent souvent seul à faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. On a l'occasion d'échanger avec différents partenaires comme Qualitom pour tout ce qui est compostage, les jardins respectueux, l'association pérenniste et Charente Nature. Ils sont très importants et nous aident à œuvrer. On essaie de trouver plusieurs leviers et d'impliquer de plus en plus les parents dans les projets.
Malgré tout, certains projets fonctionnent très bien. Est-ce que tu as des exemples inspirants ?
Il existe des dispositifs comme les centres AR proposés par les Franca qui accompagnent les équipes à intégrer l'écologie dans toutes les dimensions du centre, l'alimentation, l'énergie, l'eau et plein d'autres choses. C'est très complet. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'il propose, c'est super intéressant et forcément ça donne envie.
Merci Maëva, merci d'avoir pris le temps de nous parler de cette démarche et merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. On te souhaite une excellente continuation dans tes projets. Toujours sur l'émission Anime tes droits qui traite aujourd'hui du droit des enfants et tout particulièrement du droit des enfants à grandir dans un environnement sain. On va laisser maintenant la parole à Ludovic et Maxime. Bonjour Ludovic, bonjour Maxime.
Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit retour en arrière pour comprendre comment est née la notion de droit de l'enfant. La notion de droit de l'enfant émerge au 19e siècle. À cette époque, elle se traduit d'abord par l'instauration des règles visant à protéger les enfants, notamment dans le domaine du travail, de la justice et de l'éducation. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que les choses évoluent vraiment. En 1924, la Société des Nations adopte une première déclaration des droits de l'enfant. Elle est suivie d'une autre, en 1959, sous l'égide des Nations Unies. Ces textes posent des principes importants, mais ils n'ont alors qu'une valeur morale, pas de réelle obligation pour les États. Il faut attendre la fin du XXe siècle et l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale des droits de l'enfant pour qu'un véritable cadre juridique mondial soit mis en place. Et depuis, cette convention est devenue le texte de référence dans le monde entier. C'était votre minute histoire. Nous allons vous présenter avec Ludovic plus en détail cette convention et faire un zoom sur l'un des quatre grands principes de cette convention, le respect de l'opinion de l'enfant.
Bonjour à toutes et à tous. L'ACID, Convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est adoptée par l'ONU en novembre 89. La Convention reconnaît que les enfants ont des droits spécifiques qui doivent être protégés partout dans le monde. Elle s'applique à tous les enfants de moins de 18 ans, sans exception. L'ACID contient 54 articles, mais on résume souvent les droits en une liste simplifiée de 35 droits clés pour mieux les comprendre, surtout pour les enfants ou dans un cadre éducatif. La Convention a quatre grands principes. La non-discrimination, où tous les enfants ont les mêmes droits. L'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en compte ce qui est le mieux pour les enfants. Droit à la vie, à la survie et au développement, c'est-à-dire vivre dans de bonnes conditions physiques, mentales et sociales. Et en dernier, le respect de l'opinion de l'enfant, tout ce qui rapporte au droit de s'exprimer et d'être écouté.
En 2024 a eu lieu le 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant et le centenaire de la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant. Cependant, ces commémorations sont assombries par le recul inquiétant de ces droits, tant en France qu'à l'échelle mondiale. On peut citer les centres de rétention, les changements climatiques et les conflits armés.
Ce combat pour préserver les droits de l'enfant est une mission quotidienne pour tous les citoyens qui composent notre planète. Cette mission prend une place d'autant plus importante pour les professionnels de l'animation et des structures qui les accueillent.
Nous sommes allés à la rencontre de ces animateurs et animatrices qui suivent actuellement une formation un peu particulière, Graines de philo. L'objectif, offrir aux enfants un espace pour penser, questionner et surtout s'exprimer. Pour éclairer notre sujet, nous avons interrogé Laura, qui est animatrice. Pouvez-vous nous présenter la formation Graines de philo ?
Alors, la formation Graines de philo a pour but de permettre la discussion à visée démocratique et philosophique, donc avec les enfants majoritairement. Elle nous est présentée par Laure Laye des Franca, qui est formatrice depuis maintenant 4 ans, mais qui fait ses entraînements depuis 7 ans. Et nous avons réalisé notre première séance hier.
Parmi les 4 grands principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, il en est un qui résonne particulièrement, le respect de l'opinion de l'enfant. Dans cette formation, on apprend à lui redonner la parole, à l'inviter à dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Que pensez-vous du fait de redonner la parole aux enfants pour qu'ils puissent exprimer librement leurs émotions et leurs opinions ?
Alors pour moi, c'est essentiel dans le sens où pour une formation qui est liée à l'éducation populaire, c'est normal de laisser sa place à l'enfant qui nous représentera demain et qui est l'avenir en fait de notre avenir.
Graines de philo, ce n'est pas qu'une formation, c'est une manière de semer, dès le plus jeune âge, les valeurs d'écoute, de respect et de démocratie, parce que chaque enfant mérite d'être entendu.
Pour conclure, Valentin, redonner la parole aux enfants, c'est bien plus qu'un apprentissage, c'est un engagement. Grâce à des initiatives comme Graines de philo, les professionnels de l'animation participent chaque jour à construire un monde plus juste, plus à l'écoute, un monde à hauteur d'enfant.
Ludovic, Maxime, un grand merci. Merci pour ces explications très claires et cette explication également de la pratique Graines de philo. Je tenais également à remercier l'ensemble de nos intervenants et les auditeurs. On peut également remercier Valentin à la régie qui nous a permis de dynamiser cette émission. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée et à bientôt sur Anime tes droits.